Fais pas ça, viens ici, mets-toi là.
Bonjour!
Je m'appelle Constance.
Je m'appelle Méline.
Je m'appelle Hugo.
Je m'appelle Mathilda.
Je m'appelle Elena.
Je m'appelle Elsa.
Je m'appelle Maë.
Nous venons du centre social Colibri de Villaridon.
Bienvenue dans notre émission
Le droit des enfants
sur Radio B.
Les bonnes ondes.
Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tada, trop trop de cadets. Un cheval sur mon bidon.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur Radio B, les bonnes ondes.
Bien, je suis Elsa avec moi,
Méline.
Et je suis Elena. Nous sommes des enfants du centre de loisirs Colibri à Villars-les-Dombes.
Pendant ce mois de mars, on a réfléchi à nos droits, le droit des enfants.
Et on vous a préparé une super émission
avec une... Avec nous, toute une équipe. Vous les entendrez dans cette émission.
Radio B, les bonnes ondes.
Pour nous parler du droit des enfants, nous recevons Karine, maîtresse de CP à Villars-les-Dombes, et Corentin et Floriane Desfranca.
Méline et Elsa, c'est quoi le droit des enfants pour vous?
C'est d'être aimée par mes parents, pouvoir vivre, manger et avoir un logement pour s'abriter.
Pour moi, c'est le droit d'avoir une vie privée, d'être protégée, de rester en contact avec les personnes que j'aime et d'être aimée.
Pour moi, c'est le droit de parler aux personnes qu'on aime et d'être appréciée par nos parents et amis et de me sentir à ma place.
Et on a fait des recherches. Voici la définition que l'on a trouvée dans le dictionnaire.
Le droit des enfants, les droits de l'enfant sont les droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale aux personnes mineures afin de préserver leur santé physique et morale, de garantir leur dignité et de pouvoir promouvoir leur éducation.
Et comment ça marche ?
On va le découvrir dans notre émission.
Il existe plusieurs droits de l'enfant.
Les connaissez-vous bien ?
Pouvez-vous nous citer un droit de l'enfant ?
Alors, je peux vous citer un droit de l'enfant comme le droit à l'éducation ou même le droit à être nourri, à être logé, à être bien traité.
S'exprimer.
Le droit d'être aimé. On a le droit aussi à la liberté d'expression. Le fait que l'enfant, il a le droit d'avoir son propre opinion, de l'exprimer. Après, on a tout ce qui est droit qui touche à la santé, à la nourriture, d'accès à la nourriture, accès au logement. On a les droits sur les différentes protections, que ce soit les violences, tout ce qui va toucher à la guerre ou les violences qu'ils peuvent subir un petit peu au quotidien chez eux.
Le droit à la nourriture, c'est important. Il y a plein d'enfants qui n'y mangent pas. Parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas à manger, alors qu'ils ont signé la CIDE. Mais il y a des enfants qui ne sont pas nourris, ou même en France.
Merci aux personnes qui ont répondu.
C'est l'heure de l'interview.
Hugo et Maë ont préparé quelques questions pour Corentin et Floriane Desfranca.
C'est à vous.
Corentin, Floriane, bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre travail, vos recherches et votre invitation. Voilà, on est ravis d'être présents. Donc moi, je suis Floriane, donc je suis directrice d'une association qui s'appelle Les Francas. Et donc l'association des Francas, en fait, c'est une association qui défend les droits de l'enfant, qui a vraiment pour objectif que les droits de l'enfant soient connus, reconnus et mis en application sur toutes les structures ou sur toutes les politiques publiques qui les concernent.
Bonjour également, donc moi c'est Corentin, je suis chargé de mission droit de l'enfant pour les Francas de l'Ain, donc je travaille avec Floriane et moi je m'occupe spécifiquement de tout ce qui touche aux droits de l'enfant au sein de notre association et notamment le lieu qu'on a ouvert tout récemment, la Maison des droits de l'enfant et du jeune à Bourg-en-Bresse.
Que mettez-vous en place pour que les enfants connaissent leurs droits ?
On met en place plein de choses. Bon, il y en a certains d'entre vous qui étaient par exemple à la maison dont je parlais cette semaine. Donc des ateliers pour les enfants scolaires, périscolaires, extrascolaires, pour leur expliquer quels sont leurs droits, d'où ça vient, d'expliquer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait envers le public enfant. Et on propose aussi des formations pour les professionnels, que ce soit des équipes d'animation de centres de loisirs, de périscolaires, aussi des enseignants. Ça a arrivé là pendant ce mois de mars. Donc on essaye un peu de sensibiliser et les enfants et les adultes à ce que sont les droits de l'enfant pour mieux les appliquer.
Et aussi, pour compléter, on intervient aussi auprès, par exemple, des maires ou des élus sur les mairies, au niveau des communes, pour que les politiques locales puissent vraiment prendre en compte les droits de l'enfant également. Donc que ce soit vraiment une connaissance des droits de l'enfant sur différents niveaux autour des, par rapport aux adultes qui agissent pour les enfants.
Pourquoi avez-vous créé la Maison des droits des enfants ?
Alors ça a été vraiment une volonté des bénévoles de l'association, parce qu'on est une association, donc effectivement nous on est salariés, mais il y a aussi des bénévoles, des élus qui réfléchissent et qui réfléchissent vraiment à des actions sur comment faire pour développer ça, comment faire pour transmettre. Il faut savoir qu'en France, il existait 3 maisons des droits de l'enfant, donc du coup on a ouvert la 4e. Et en fait, donc chaque année, il y a en France et dans le monde, il y a des défenseurs des droits de l'enfant, notamment en France, qui est Éric Delmar en ce moment. Et chaque année, ce défenseur des droits rédige un rapport. Et chaque année, dans son rapport, est préconisé qu'il existe des lieux ressources à destination des adultes et à destination des enfants pour faire connaître les droits de l'enfant. Et donc chaque année, il y a ces préconisations. Et donc il y a 4 ans maintenant, l'association des Francadelins a voulu se saisir de cette préconisation et se dire faisons de cette préconisation, ce rêve, une réalité. Et donc ça fait 4 ans que l'association travaille dur pour que ça puisse être réalisé. Et donc ça y est maintenant depuis 3 mois.
Que peut-on faire à la Maison des droits des enfants ?
Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut venir se faire former quand on est adulte et qu'on travaille avec des enfants sur les sujets des droits de l'enfant. Quand on est plutôt enfant, on vient s'informer sur quels sont les droits auxquels on a accès. Ça, c'est la première chose. Et puis, on ouvre aussi cette maison-là des droits de l'enfant et du jeune à d'autres associations qui viennent faire ce qu'on appelle des permanences. Donc, c'est quand d'autres associations ils viennent dans nos locaux pour faire leurs activités. Et donc, dans ce cas-là, on a d'autres publics qui peuvent venir dans cette maison des droits de l'enfant.
Pensez-vous que les enfants sont bien protégés par leurs parents ?
Alors majoritairement, oui, en tout cas, le plus possible, on espère. Mais par contre, on le sait que ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Et que par contre, ce qu'il faut, effectivement, c'est que les enfants puissent être protégés, que ce soit par leurs parents ou en tout cas par d'autres adultes. Et ça, c'est vraiment une obligation des adultes de protéger tous les enfants. Et donc, effectivement, que cette protection vienne au sein de leur famille ou d'autres, ou l'extérieur de leur famille. Mais effectivement, malheureusement, notre grand regret, tous les enfants ne sont pas protégés par leurs parents.
Comment les enfants peuvent-ils être libres ?
On a combien de temps pour répondre ? Déjà, la liberté, c'est quelque chose qui, dans notre pays, en France, s'est inscrit. C'est la devise nationale, donc c'est quelque chose, évidemment, qui nous tient à cœur. Donc, on peut être libre de plein de manières différentes, et ça dépend du sujet. Pour nous, la liberté, elle passe notamment au Franca par ce qu'on appelle les moyens d'expression et de participation. On part du principe qu'être libre, c'est aussi avoir le droit de dire ce qu'on pense et que notre avis soit écouté, entendu. Notamment auprès d'adultes, parce que c'est quand même encore majoritairement les adultes qui décident dans les espaces que vous fréquentez. Donc moi, ma réponse, ce serait pour être libre, garantissons notre droit à l'expression, qu'on puisse être entendu et écouté par le plus de personnes possible.
Comment veillez-vous à ce que les droits soient respectés ?
Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ?
Comment veillez-vous à ce que les droits soient respectés ?
Déjà, nous, dans le champ d'action qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire, malheureusement, avec les moyens qu'on a. Le fait déjà que les enfants connaissent leurs droits et connaissance de leurs droits, c'est déjà un premier pas, parce que du coup, ça veut aussi dire être en capacité de dire ce qui est en train de m'arriver, ça va à l'encontre de mes droits et moi je veux que mes droits soient respectés. Donc c'est-à-dire déjà les enfants puissent être en capacité d'avoir cette réflexion-là, que les enfants puissent savoir vers quel adulte ils puissent se tourner pour aller les aider, justement pour que les droits soient respectés. Et puis du coup, pareil pour du côté des adultes, hein, qu'ils aient connaissance des droits de l'enfant, de leurs obligations en tant qu'adultes, parce que malheureusement, très souvent, quand on parle des droits de l'enfant aux adultes, la réponse est souvent les enfants ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Oui, et les adultes aussi ont des devoirs. Et c'est vraiment le devoir des adultes, c'est justement de protéger les enfants et de faire en sorte que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment une répétition au quotidien de rappeler à tous les adultes qu'on peut croiser leur devoir de faire respecter les droits des enfants.
Est-ce que c'est facile de sensibiliser les adultes aux droits des enfants ?
Ça dépend quels adultes. Il y a les adultes qui travaillent avec les enfants, généralement, ils ont une prédisposition. C'est plus facile avec eux parce qu'ils côtoient des enfants au quotidien. Donc quand ils viennent sur les espaces où on peut parler droits de l'enfant avec eux, sur les moments de formation, ça se passe généralement plutôt bien. Mais il y a des adultes qui côtoient pas forcément d'enfants à part les leurs, et là ça peut être effectivement plus compliqué de parler des droits de l'enfant. Certains adultes ont un avis très figé sur ce qu'est l'éducation, ce qu'est une bonne éducation, et vont avoir tendance à pas forcément écouter les autres personnes, surtout des personnes qui, par exemple comme moi, n'ont pas d'enfants. Donc voilà, ça dépend des adultes.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
À bientôt.
Gade soleil la, klere daye la pli.
Lou sa tchembe yon fon tchembe.
La tête ou pichi, nou tout la pli pichi.
Lou ka grandi epi l'amour.
Si la vie pa mache,
aïe 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 aïe,
il faudrait ou pou.
Ouais, yeah, yeah, yeah.
Moi qui rêvais de faire le tour de la terre en chanson, aujourd'hui je pars en croisière sans quitter mes chaussons. Écoutez les rires, les sons, les clameurs qui grondent, c'est une invitation à entrer dans la ronde. Alors je monte au deuxième étage chez mes voisins tziganes. Moi qui aime les voyages, je suis leur plus grand fan.
Je dis ça.
Ils dorment à Yémen, vers Veltansungi. Ils disent l'oublume et Pesseidi. Ils dorment à Yémen, richtig manchen spielen hier. Ils disent l'oublume et Pesseidi.
On vous propose un petit jeu, un quiz. Première question, c'est quoi la CIDE ?
Réponse A, la Convention internationale des droits des enfants. Réponse B, la conversation inacceptable des éléphants. Réponse C, la conférence idéale des dentistes élégants.
Bon ben, je crois que vous l'aurez deviné. La réponse, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Internationale. Et d'ailleurs, quand était-elle créée ?
Réponse A, 2001. Réponse B, 1989. Réponse C, 1969.
Et la réponse est 1989. Elle a été adoptée à l'ONU.
Combien y a-t-il de droits des enfants ?
Réponse A, 36. Réponse B, 67. Réponse C, 42.
La réponse est 42.
Merci et bravo à ceux qui ont juste.
Que pensez-vous du choix de la SNCF de proposer des wagons sans enfants ?
Ça peut permettre aux gens qui sont fatigués, qui veulent pas de bruit, de ne pas avoir de bruit, mais en même temps, du coup, ça veut dire que ça exclut les ados et que ça les met de côté.
Je dirais que moi, ça me révolte. Je ne comprends pas pourquoi on devrait évincer des enfants des autres wagons. C'est bête de faire ce choix parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait des petits, grands dans les wagons.
J'ai l'habitude de prendre le train et c'est les adultes qui me dérangent. C'est pas les enfants. J'entends pas les enfants, je les entends discuter, jouer. Les miens, je leur donne des coloriages, ils font pas de bruit. Par contre, les adultes, je les entends discuter au téléphone, discuter avec leurs copines, très fort.
Il devrait y avoir un petit peu une interview des enfants pour savoir ce qu'ils pensent, puisqu'on a interrogé que les adultes au niveau de la SNCF. C'est souvent les adultes qui manquent de savoir-vivre dans les espaces de collectif, alors que des rires d'enfants et tout ça, c'est quand même très très important, et que les enfants ont vraiment toute leur place dans les bus, les trains, et dans la société.
Je trouve pas ça acceptable, dans le sens où c'est discriminant. C'est comme si on proposait des wagons sans femmes, sans hommes, sans animaux. À la place, on aurait très bien pu faire des wagons plutôt réservés pour les enfants, ou du moins adaptés à échelle d'enfants.
Je trouve que c'est inadmissible. Parce que c'est comme si j'interdisais un wagon, arrêtez, on dit aux enfants, mais on pourrait très bien mettre n'importe quel mot à la place d'enfant. Surtout qu'en plus, on essaye vraiment de déplacer le problème. Vu qu'il y en a qui considèrent que les enfants ils sont bruyants, plutôt que d'adapter justement le train aux enfants, donc à vous. Parce que je sais qu'il y a des pays où c'est le cas, je crois que c'est la Suède où c'est le cas. Mais il y a des pays où justement les trains, il y a des wagons exprès pour vous les enfants, où il y a plein de jeux, des piscines à boules, des trucs du genre, exprès pour que vous puissiez, vous, aller dans ces wagons-là. Et vous divertir plutôt que de vous mettre en dehors des wagons.
Salut Constance.
Bonjour Mathilda.
Tu avais entendu parler de cette histoire de train ?
Oui, c'est inquiétant quand même.
Ça me fait penser à ce mot. L'adultisme.
Oh là là, c'est compliqué ça. Ça veut dire quoi ?
Camille Pasquier nous donne sa définition. Elle a fait une conférence gesticulée sur le sujet.
Bonjour. Je suis Camille Pasquier et je fais une conférence gesticulée qui s'appelle « C'est pour ton bien, ma chérie ». Et c'est une conférence qui parle d'adultisme. Alors, l'adultisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de penser les relations entre les adultes et les enfants qui se base sur des rapports de force, des rapports de pouvoir. L'adultisme, ça... C'est aussi, dans les rapports de force et de pouvoir, le fait de faire de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, auprès des enfants. C'est considérer en fait que les enfants ne sont pas en capacité de beaucoup de choses. On a souvent la sensation qu'on doit leur apprendre la vie, qu'on doit leur donner des règles pour qu'ils... des règles souvent sociales, etc. Mais en fait, on a assez peu confiance dans le fait qu'ils observent les choses, qu'ils apprennent par imitation.
Et ça veut dire quoi au quotidien ?
La forme la plus douloureuse, la plus dure de l'adultisme, c'est vraiment les violences qui sont perpétrées sous prétexte d'éducation. Alors les violences psychologiques, ça peut être de punir, d'humilier, de faire des reproches. D'isoler dans un coin, d'isoler dans une pièce, d'interdire des choses, d'exercer un certain contrôle vraiment sur la vie des enfants, sans forcément de discussion, sans forcément d'explication, sans forcément de confiance une fois de plus.
On retrouve aussi ça dans les situations très simples de tous les jours.
Beaucoup d'enfants posent des questions sans avoir forcément de réponse. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas avec eux, qu'on n'explique pas parce qu'on estime qu'ils sont trop petits, qu'ils comprendront plus tard, que c'est pas vraiment de leur âge. Or, les enfants, comme tout le monde, et plus encore que tout le monde, ont besoin de comprendre beaucoup le monde. On pose beaucoup de questions et sont très curieux. Ils ont vraiment cette soif d'apprendre le monde. On a souvent envie, en fait, de les protéger, et c'est normal, c'est vrai, que c'est très important ce qui se passe dans l'enfance et que ça nous construit toute la vie. Mais parfois, parce qu'on veut protéger quelqu'un, on a tendance à l'enfermer. Et l'adultisme, quelque part, c'est aussi ça. C'est aussi une idée que les enfants doivent être absolument protégés de tout. Donc, on va vraiment faire en sorte qu'ils ne se blessent pas, qu'ils n'apprennent pas des choses trop difficiles, bien sûr, de ce qui se passe dans le monde, des histoires qui les concernent parfois directement dans leur famille. Donc on n'explique pas, il n'y a pas de mots, il y a du silence. Au niveau de tout ce qui est possible physiquement, c'est-à-dire de toute l'exploration physique dont les enfants, dont on a tous et toutes besoin, mais dont les enfants ont besoin très tôt, eh ben, on se rend compte que ça s'est très réduit. C'est-à-dire qu'avant, les jeunes gens pouvaient circuler en vélo, aller se balader, voilà, il y avait une exploration alentour de la maison qui allait jusqu'à plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, les études montrent que c'est pas plus de 300 mètres autour de la maison.
Et cela nous amène à nous interroger sur la place des enfants dans la société.
Et comment ils sont considérés par les adultes ?
Aujourd'hui, on dit que frapper quelqu'un, c'est une agression, et c'est écrit dans la loi, c'est interdit. On dit que frapper un animal, c'est de la cruauté. 85% des parents aujourd'hui encore estiment utiliser la violence éducative avant 5 ans, d'avoir donné une fessée ou un coup à son enfant, avant ses 5 ans.
Alors comment on fait pour réinventer nos relations avec les adultes pour qu'ils nous respectent
et continuent de nous guider ?
Ce sont aux plus jeunes de prendre la parole, en même temps que celle des adultes, bien sûr, qui veulent bien être des alliés, et d'essayer de trouver des stratégies pour en sortir, pour faire prendre conscience aux adultes que les choses peuvent se passer autrement et qu'on peut apprendre à vivre en tant qu'enfant dans un monde compliqué en étant respecté. D'autant que la violence, elle génère la violence. Donc, il n'y a vraiment rien d'intéressant là-dedans. Il y a plutôt beaucoup de travail pour s'accompagner mutuellement, à essayer de faire autrement. Et avoir beaucoup d'empathie aussi pour tout ça.
Un message pour repenser nos relations enfants-adultes.
Ok, mais est-ce que les adultes nous écoutent vraiment ?
Certainement pas. Aujourd'hui, les adultes imposent leurs lois, j'ai envie de dire. Alors ça évolue, il y a des endroits où les enfants peuvent parler, mais peut-être pas suffisamment d'endroits, et puis c'est pas tout le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les enfants ils font ce qu'on leur dit. Les adultes ont une position de dominant, donc en étant dominant, bah forcément on opprime la parole des autres. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que les enfants ils ont des choses à dire, ils ont plein d'idées pour améliorer leur vie et puis la nôtre en même temps, celle des adultes qui les entourent. Donc, il y a du boulot. Et je crois qu'au centre social, eh ben, ce que vous faites, c'est trop top, quoi.
7h30 en chiffres rouges, illumine la nuit. J'entends, lève-toi et bouge. Aujourd'hui, c'est lundi. Pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents. Conjurer les menaces d'une journée sans écran. Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma baguette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, de temps qu'on a mis une enclume dans mon tout petit sac à dos. J'ai perdu mes pinceaux, oublié la table de 8. Dehors il pleut à saut, j'ai le blues au zénith. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied. Rayer les lundis matins du calendrier. Ça nous fait des bonnes journées, tu vois. Là décoller, c'est pas ce qu'on croit. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça. La récré, je me débine et me confonds.
Vous êtes toujours sur Radio B.
En direct du centre social Colibri à Villars-les-Dombes.
Et notre invitée, Karine, nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Karine est maîtresse en CP à Villars-les-Dombes.
Comment parlez-vous du droit des enfants dans votre école ?
Alors, on aborde énormément ce sujet dans l'école. Donc, moi, je suis dans une école élémentaire du CP au CM2. Et avant tout, on met en place beaucoup de choses dans les classes pour avoir des espaces de parole. Je crois que c'est par là que ça commence.
qu'est-ce qui est mis en place dans votre école pour que les enfants puissent s'exprimer ?
Eh bien, dans chaque classe, il y a des conseils de classe où les enfants vont pouvoir prendre la parole et aborder les sujets qui les touchent et qui sont liés à leur vécu de tous les jours, leurs émotions, souvent en CP. Moi, je suis maîtresse de CP, c'est des plus petits. Ça part souvent de leurs émotions et des choses qui les débordent. Mais il y a aussi des choses positives. Et pour les plus grands, après, c'est aussi concevoir des choses au niveau de l'école, puisque les élèves peuvent ensuite se regrouper au sein d'un conseil des élèves qui accueille tous les délégués de chaque classe de l'école. Donc ça fait du monde déjà. Et ils vont pouvoir aborder l'agencement de la cour, les problèmes liés vraiment au fonctionnement de l'école, au-delà de leur simple émotion qui est le départ de tout, on va dire.
Qu'est-ce que pourraient faire les adultes pour mieux écouter les enfants ?
Alors ça, moi en tout cas dans mon métier et par rapport à mon rôle d'enseignante, c'est de l'écoute en permanence. Du début de ma journée jusqu'à la fin, on essaye d'être à leur écoute et de leur donner la parole. Notre métier, c'est d'instruire. Et pour pouvoir bien instruire, il faut que chacun puisse être capable de s'exprimer. Et je crois que chaque enseignant a à cœur de développer les capacités d'expression de ses élèves. Et par là, par exemple, moi là, je fais un projet théâtre avec mes élèves. Ça peut paraître être juste un projet théâtre, mais c'est juste apprendre à mettre en mots et à verbaliser les choses pour être capable de s'exprimer et de pouvoir être entendu.
Est-ce que vous pensez qu'on devrait parler plus de leurs droits aux enfants ? Par exemple, on pourrait adapter un temps de classe pour parler de ça ?
On peut complètement penser ce genre de choses. Si ça vient d'eux et qu'ils le font émerger en conseil de classe, moi je dis bah oui, allons-y.
À votre avis, pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas voter ?
Alors, par rapport aux élections présidentielles ou aux élections importantes, il y a un âge minimum requis. Mais il y a des petites choses qui peuvent être mises en place où l'avis des enfants, comme un vote, va rentrer en considération. Et dans l'espace classe, c'est le lieu d'expression et de vote. Hein. Moi, j'ai fait voter mes élèves la semaine dernière pour les élections de délégués. Ils sont allés dans l'endroit dédié à ce temps de vote. Ils ont mis leur bulletin dans une enveloppe. Ils l'ont glissé dans une urne. On a travaillé en classe sur ce vocabulaire électoral. Et ça a été la première élection. Mais je n'ai pas l'impression que ce vote était moins bon qu'un autre parce que c'était des enfants ou parce qu'il n'est pas à l'échelle de la France. Mais il était très important pour eux. Et nos délégués sont très fiers d'avoir été élus. Voilà.
Merci à vous, Karine. Vous êtes la maîtresse de CP à Villars-les-Dombes.
Merci.
Comment peut-on mieux inclure les enfants dans notre société ?
Eh bien, en leur demandant leur avis, en prenant en compte leur opinion, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu un petit peu tout ce qui est collectif ou encore chez eux. Je pense que les enfants ont des choses à dire et que si on les écoutait un petit peu plus, eh ben, on pourrait construire avec eux et notamment des espaces peut-être aménagés pour eux.
En les écoutant, mais vraiment, pas les écoutant en disant « oui, je t'écoute », mais sans les entendre vraiment. Il faut que les adultes apprennent à ouvrir grand leurs oreilles pour écouter les vraies réponses et les vraies demandes des enfants.
En leur demandant leur avis, avant de prendre une décision, surtout quand ça les concerne.
Alors, je pense que pour mieux inclure les enfants dans notre société, eh bien, il faut qu'ils aient des espaces où ils peuvent participer, décider, échanger, discuter, et surtout qu'ils puissent prendre confiance en eux, qu'ils puissent être valorisés. Et par exemple, au centre de loisirs, on a créé le CEJ, le Conseil d'enfants et de jeunes. Une fois tous les mois, ils vont pouvoir se réunir et participer, dire ce qu'ils ont envie de partager par rapport au fonctionnement de la structure, par exemple, mais aussi par rapport aux règles de vie et encore plein d'autres choses. Et ce sera à construire avec eux.
Je suis d'accord avec l'idée du conseil.
C'est bien de s'exprimer et de discuter des idées pour améliorer le centre.
Je suis entièrement d'accord qu'on travaille sur les droits des enfants. Le conseil, c'est une très bonne idée. J'ai bien aimé cette émission.
Moi aussi, ça m'a plu et intéressé.
En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer l'émission.
Elena, Ophélie, Mathieu, Marine, Fiona, Sandra, Caroline, Fanny et toute l'équipe du Centre Social Colibri.
Jimmy et Elodie de Radio B.
Et merci à nos invités.
Merci de nous avoir écoutés sur Radio B.
Et merci au public! Dans le